Bonjour mes amis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Moi j'ai changé de lunettes, mais l'accent continue les mêmes. Donc aussi les fautes des Français. Mais par la grâce, on va arriver. Le Seigneur nous a déjà parlé par les chants. Le Seigneur a déjà parlé par les prières. Et même... Déjà pour votre disposition de venir jusqu'ici, vous êtes déjà bénis. Et je crois que le Seigneur a encore quelque chose à nous dire par sa parole. Nous venons de lire l'appel de Gédéon. Gédéon qui a été à juge en Israël. Et pour ceux qui ne savent pas, la période des juges, c'était la période... après la conquête d'Israël et avant l'établissement de la monarchie. Donc, il y avait des hommes que Dieu suscitait pour juger, pour sauver, délivrer le peuple. Et cette semaine, nous avons entendu l'histoire d'un héros à Paris. Un nouveau héros qui s'appelle, comment s'appelle-t-il ? Mamoudou Gassama, qui n'a pas vu ces jeunes hommes qui a escaladé à main nue la façade d'un bâtiment pour aller sauver un enfant, qui n'a jamais rêvé d'être un super-héros, Spider-Man, Batman, Wonder Woman, Tintin, tous ces personnages nous ont fait rêver de l'impossible. Nous ont fait songer de la victoire du bien sur le mal. Et ces jeunes hommes-là, cette semaine, il n'a pas hésité. Il n'est pas resté en train de calculer et réfléchir s'il pouvait ou pas arriver à son but. Il est monté. Un sans-papier, un immigrant illégal, un sans-rien. Et pourtant, par son geste spectaculaire, il a une médaille et un diplôme, acte de courage et de dévouement. Les services d'immigration sont en train déjà de régulariser sa situation et Monsieur le Président Macron l'a proposé d'intégrer au service des sapeurs-pompiers. Wow. J'ai même pensé faire ça avec Nina. Il demandait à mon fils de filmer. Ça m'éviterait bien des dépenses chaque année pour renouveler ma carte visiteur. Plus grand que Mamoudou Gassama et plus grand que Gédéon, plus grand que tous les héros du monde, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il n'avait pas un cheval blanc. Il n'avait pas un bouclier d'or, il n'avait pas une épée brillante. Notre héros, il était humble. Dans le ciel, il était roi, mais il a tout quitté pour venir mourir à notre place sur le mont Calvaire. Jésus, notre plus grand héros. Les livres des juges nous racontent donc cette période difficile d'Israël. Pas de roi, les gens faisaient ce qui venait en tête. Au moment de la conquête, Israël avait un ordre clair de l'Éternel. Il fallait éliminer par complet tous les Cananéens et prendre possession de la totalité du territoire. Les textes bibliques nous choquent notre sens moral, révoltent même notre conscience. Comment pouvait Dieu condamner tous ces gens à la mort? Mais il faut regarder les textes dans son contexte où la vie humaine est un exemple d'un temps de barbarie, un temps où la vie humaine n'avait qu'une infime valeur. Le Seigneur a dit, faut conquérir la terre. Les Israélites n'ont pas obéi la voix de Dieu. Au contraire, ils ont bien voulu faire des alliances, des mariages pour la conquête de la terre. Et à cause de cet échec, de cette désobéissance, la vie est devenue très difficile pour Israël. Israël a dû supporter les lourdes conséquences de cohabiter avec ses ennemis. Et pendant cette période, un cercle vicieux va caractériser la vie d'Israël. Israël abandonne l'Éternel pour l'idolâtrie, pour s'assimiler aux religions des Cananéens et pratique les injustices sociales. Les seigneurs les abandonnent à leurs ennemis. Les peuples alors implorent une délivrance. Dieu suscite un libérateur, un juge, un homme, une femme, un héros entre les peuples qui délivre de leurs ennemis. Et une fois avoir été libéré, Israël s'oublie de l'alliance avec son Dieu et retombe dans l'idolâtrie. Nous nous souvenons de quelques noms, de quelques juges. Donc, Déborah, Gédéon, Jephthé, Samson et Samuel. Tel comme la nation d'Israël, nous aussi, nous avons les mêmes comportements. Notre vie spirituelle se ressemble à une montagne russe. Parfois, nous sommes au nuage. Parfois, nous sommes plongés dans nos crises d'existence. Nous sommes appelés à nous approcher de plus en plus de notre Dieu. Nous devons quitter ces cercles vicieux et nous approcher de plus en plus de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. Les versets 11, il est dit, « L'ange de l'Éternel vient, il s'assoit sous les tébérantes d'Orpha, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madiens. L'ange de l'Éternel lui est apparu et lui dit, « L'Éternel est avec toi, veillant héros. » Tout d'abord, de leçons importantes, j'apprends de l'appel de Gédéon. Le premier, Gédéon était au travail quand le Seigneur lui est apparu. Dieu ne se sert pas des gens qui n'aiment pas le travail. Première chose très importante. Tous les hommes et toutes les femmes que Dieu a appelés, ils étaient au travail. David, le roi David, l'homme selon les cœurs de Dieu. Au moment où Samuel est venu pour Léandre, roi d'Israël, il faisait paître les brebis de son père. Un travail humble, un travail d'aucune importance dans la société, mais David, il était au travail. Le Seigneur n'aime pas les feignants. Le Seigneur n'aime pas notre attitude, notre paresse parfois. Le Seigneur nous invite au travail, à travailler pour nous-mêmes, à travailler pour notre famille, à travailler pour notre Église, à travailler pour le royaume de Dieu. Il faut que nous secouions notre paresse. Il faut qu'on s'élève et que chacun de nous se mette au travail. Jésus, lorsqu'il a voulu former un groupe de disciples, il n'est pas allé chercher les gars au bar du coin de la rue ou les gars qui jouaient du domino sur la place publique. Non, Jésus est allé au bord de la mer et a appelé les pêcheurs, des hommes qui travaillaient dans la rue de profession, qu'est celle de la pêche. Le travail, c'est un mandat divin. Lorsque le Seigneur met Adam et Ève au jardin, il les dit pour les cultiver et garder le jardin. Le travail n'est pas la conséquence du péché. Jésus a dit, « Mon Père travaille jusqu'à présent, et moi aussi je travaille. » Donc, mes amis, le Seigneur cherche ceux qui travaillent. Il faut sortir de notre inertie. Il faut se mettre en action. Jésus a dit en Luc 10, 2, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Gédéon, malgré toute la difficulté, il travaillait pour sa maison, pour sa famille. Malgré la difficulté, l'ennemi qui guettait, il discrètement, il battait du froment au pressoir. La deuxième chose que j'apprends, c'est quand le Seigneur dit « vaillant héros ». Gédéon n'avait pas encore rien fait d'important, mais devant Dieu, il était déjà un héros. Nous ne voyons que le présent, les difficultés de chaque jour, les crises, mais le Seigneur, lui, il voit plus loin. Il voit notre futur, notre avenir. Les circonstances difficiles sont simplement l'école où j'apprends que c'est Dieu qui dirige mes pas et qui me conduit vers la victoire. Paul, en écrivant aux Romains, il dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Plus que vainqueur, pas simplement un vainqueur, plus encore qu'un vainqueur, parce que c'est le Seigneur qui nous donne cette victoire. Et tout ce qui vient de Dieu, c'est bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont toutes ces prodiges que nos pères nous raconte quand ils disent « L'Éternel nous a pas fait sortir hors d'Égypte. Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains des Madiens. » Madien, c'est une figure du diable, du génie du mal, les rois cananiens qui ravagent Israël de temps en temps. Nous vivons dans des jours difficiles, où le diable s'élève quand on n'entend pas. Il est très malin, il est très rusé. Il s'élève contre notre famille, il s'élève contre l'Église, il s'élève contre nos vies. Et qui d'entre nous n'a jamais dit à soi-même et à Dieu, pourquoi ? Pourquoi Dieu ? Pourquoi ? Si tu es avec nous, pourquoi cette douleur? Si tu es avec nous, pourquoi je dois subir cette souffrance? Même Jésus sur la croix, une fois, la douleur immense sur Jésus, il dit, Eli, Eli, lama sabachthani, qui savait dire, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Et ça, c'est très important qu'on comprenne que c'est pas un péché de dire comme ça. C'est pas un manque de foi de se poser une question comme celle-ci. Nous tous, nous vivons sur le règne du péché, le monde déchu. C'est pas ça que le Seigneur a voulu pour nous. Et nous subissons des souffrances. Job, un homme intègre, juste, honnête, un homme qui craignait Dieu, pendant son épreuve, il ne cesse pas de demander à Dieu, pourquoi à Dieu? Et la Bible, elle est très claire quand elle nous dit que Job n'a pas péché par ses paroles. Job, chapitre 1 et chapitre 42. Pourtant, même s'il n'est pas un péché, nous devons apprendre à résister, à dire pourquoi. Et surtout, Nous devons accepter ce que le Seigneur nous envoie, soit le bien, soit le mal. Nous devons faire confiance à l'Éternel. Jésus nous a dit, dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. S'il a vaincu le monde, nous aussi, nous allons vaincre le monde. Jésus, sur la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Et là, c'est la preuve que Dieu vraiment s'est fait homme. Jésus, le Fils de Dieu, essence même de Dieu, vrai homme, vrai Dieu, dans la solitude et la douleur de la croix, il démontre sa solidarité envers les hommes. C'est un Dieu qui souffre. Dans les crucifiés, nous reconnaissons notre Dieu. Dans les crucifiés, nous reconnaissons notre héros, Jésus-Christ. Un Dieu qui comprend notre douleur. Un Dieu qui peut comprendre. Nous pouvons partager notre sentiment de solitude avec Dieu, parce que lui-même, il a passé par là. Voici notre héros. Gédéon, jusqu'ici, c'est un héros d'une petite foi. L'homme de Dieu, la femme de Dieu, n'est pas faite d'un seul coup. La foi, pour grandir, ça demande du temps. La foi, elle commence tout petite, comme un petit grain. Et à fur et à mesure qu'on met notre foi en action, la foi devient de plus en plus forte. La foi en Dieu s'appuie sur deux piliers, la parole de Dieu, ce que nous sommes en train d'exposer. La lecture de la Bible, la méditation de la parole de Dieu. Et la deuxième chose, la foi s'appuie sur la prière. La négligence de la prière, c'est un des principaux obstacles pour que la foi puisse grandir. Je me souviens de quelqu'un qui vient à Jésus pour être béni. Il dit, « Je crois, Seigneur, viens en aide à mon peu de foi. » La foi, elle grandit dans les silences, dans les épreuves, dans la tempête. La foi passe inaperçue. Normalement, une personne de grande foi, elle passe dans l'anonymat, parce que la foi est avant tout un acte d'humiliation. La foi ne s'appuie pas sur elle-même, mais sur la puissance de Dieu. Seulement ceux qui ont reconnu leur totale impuissance peuvent avoir la foi inébranlable en Dieu. Le verset 14 nous dit, l'Éternel se tourna vers Gédéon et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main du roi des Madiens. Va avec cette force que tu as. » Il y a des chrétiens qui n'ont pas encore réalisé et compris cette réalité. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Paul dit au 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre cœur est le temple du Saint-Esprit? Mes amis, il y a une force en nous. Il y a une force extraordinaire, une force que le monde ne peut pas comprendre. C'est la force de Dieu qui est en nous. Dans les moments les plus difficiles, tu vas trouver cette force. Parce qu'elle ne vient pas de toi, elle vient de Dieu. Quand les forces nous manquent pour marcher, cette force nous fait courir. Cette force nous renouvelle. Cette force est là présent cet après-midi pour toi. Elle est à l'auteur, elle est proche de nous. Elle est là, à notre portée. C'est pas un dogme. C'est pas une doctrine à répéter, à mémoriser. C'est une réalité. Dieu habite en nous. Et Dieu doit habiter quelque part de nous. Je peux pas vous dire. La science ne les croit pas. Et je crois que dans quelque part, dans notre cœur, Il a un petit local où Dieu habite. C'est pas dans notre pensée, c'est dans notre cœur entier. Dieu habite en nous. Dieu n'habite pas dans les bois. Dieu n'habite pas dans les fers. Dieu a préféré habiter sur terre, dans les cœurs des pécheurs, renouvelés et sauvés par Jésus-Christ. Gédéon, va avec cette force que tu as. Et par cette parole, je comprends que Dieu nous équipe et nous donne des capacités, des dons particuliers pour que nous puissions accomplir notre mission. Chacun de nous a une mission. Je répète toujours, je vais répéter autant que j'aurai de la force. Chacun de nous a une mission sur terre. Et je demande simplement à Dieu que je puisse accomplir son œuvre sur terre. Je demande à Dieu que je ne sois pas indifférent à la souffrance de mon prochain, à la souffrance de ma famille. Je demande à Dieu que je sois sensible aux autres. Je demande à Dieu de ne pas devenir un vieux vide et sec, égoïste. Jésus nous a déjà dit, parce que le mal ne cessera de croître et l'amour de beaucoup, de plusieurs, du plus grand nombre se refroidira. Qu'il est triste de voir l'Église comme une institution, comme simplement une religion morte et froide. Il faut que notre foi puisse bien sortir de ces murs et aller à la rencontre de ceux qui périssent, de ceux qui n'ont pas de moyens. Gédéon, va avec cette force que tu as. Ne crains pas, crois seulement. Si Dieu t'a mis dans ce local de travail, il savait d'avance les difficultés que tu allais trouver. Mais le Seigneur t'a revêtu, le Seigneur t'a équipé, le Seigneur t'a donné déjà la force de supporter toutes les contrariétés. Ne crains pas la méchanceté des hommes. Dieu est plus grand que la méchanceté des hommes. Dieu qui habite en toi. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre au Manassé, et moi, je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Nous sommes des spécialistes en trouver des bonnes excuses pour ne pas faire l'œuvre de Dieu. Moïse, l'homme, le plus grand homme pour Israël, il n'y a pas dans une famille juive, aucune famille juive qui n'y a pas un jeune homme qui s'appelle Moïse. Il faut avoir un héros de Dieu. Mais lui, il dit, j'ai la parole difficile, envoie un autre. Jérémie, devant son appel, il dit, je ne suis pas qu'un enfant. Et le prophète Ésaïe dit, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et moi-même, j'ai des lèvres impures. Je suis le plus petit. Et l'Éternel lui dit, ah bon, je ne savais pas. Le verset 16, il dit, l'Éternel lui dit, mais j'essaierai avec toi. Je sais que tu es le plus petit, mais j'essaierai avec toi. Le mais de Dieu fait toute la différence. La mission parfois est trop dure, mais j'essaierai avec toi. Les études, très lourdes, c'est un long chemin, mais j'essaierai avec toi. Supporter cette ambiance de travail, des compétitions, des jalousies, mais j'essaierai avec toi. Nous tous, chacun de nous, sommes appelés à être un héros dans notre société, être un Gédéon. Et Dieu cherche des hommes comme ça, qui sont au travail, mais qui se lèvent, qui abandonnent tout pour faire l'œuvre de Dieu. pour aller faire les combats des dieux. Dieu veut écrire une histoire nouvelle, des nouveaux vainqueurs. Votre histoire va inspirer d'autres à leur tour à faire confiance à l'Éternel, en Éternel. Et chaque page de ces livres, de cette histoire, c'est une page d'histoire, de victoire, car Dieu lui-même est l'auteur. Le Seigneur veut faire des choses nouvelles aujourd'hui. Mamadou Gassama, du jour au lendemain, est devenu un homme populaire. Tout le monde veut être son ami, héros de la nation. Les actes de courage d'un vrai chrétien, par contre, ça se passe dans les silences. Personne ne voit les hommes et les femmes de Dieu, les héros de la foi, mais Dieu les voit. Parfois, j'imagine que Dieu s'élève de son trône pour applaudir un des champions de la foi sur terre. Notre héroïsme est composé des petites actions de tous les jours, les exercices du pardon, la patience, l'amour pour la famille, l'amour pour ceux qui sont dans le besoin, l'honnêteté, la sincérité, la bonté, la méditation dans la parole de Dieu, la prière, la foi. En Hébreux 12, du verset 1 au 13, au 3, il est écrit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons le regard sur Jésus, les chefs et les consommateurs de notre foi. » Et les versets 16, le Seigneur lui dit à Gédéon, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » La victoire de Gédéon a été éclatante. Avec seulement 300 hommes, il a vaincu une armée de plus de 100 000 hommes. Vous croyez ça absurde? Moi aussi, comme dit la pub. Et quelles étaient les armes de Gédéon? C'était des cruches vides et des trompettes. Ils arrivent la nuit, la veille du combat. Ils sonnent les trompettes, ils cassent les cruches vides. Il y a un tel bruit que l'armée ennemie, en cherchant la fuite, s'y blesse les uns contre les autres, épée contre épée. Plusieurs sont morts et l'armée ennemie est éloignée. C'est le Dieu des miracles. L'Éternel des armées est son nom. Il n'a jamais perdu une bataille. C'est Dieu est là aujourd'hui. C'est Dieu, le Dieu d'Israël. Il habite en vous. N'ayez pas peur. Prenez courage. C'est ça le message de Dieu pour aujourd'hui. Prenez courage. Le Seigneur est avec vous. Si la chose est difficile, dites-le à vous-même. Le Seigneur est avec moi. Le Seigneur habite en moi. Le Seigneur est celui qui nous assure la victoire. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, aujourd'hui tu nous dis que tu nous donnes la victoire. Seigneur, nous te demandons de la force. Nous te demandons que tu nous ouvres les yeux pour voir que nous sommes en toi plus que vainqueurs. Aide-nous, Seigneur, à supporter tous les mâles qui nous environnent. Aide-nous, Seigneur, à être positifs, optimiste, d'aller en avance. d'avancer, Seigneur, par ta puissance. Seigneur, je prie pour ceux qui sont ici et qui ont un fardeau très lourd, voire même écrasant sur eux, que tu puisses les alléger, que tu puisses donner, Seigneur, la réponse à ton serviteur, à ta servante, Seigneur, qui est là et qui crie vers toi. Nous prions, Seigneur, pour ton Église, que tu puisses bénir ton Église et faire, Seigneur, encore en voir un réveil, comme tu as fait dans le passé, que tu puisses faire aussi dans nos jours. Nous prions pour la nation, pour la France, qui subit le terrorisme, ô Père. Nous te demandons que ton Église puisse avoir, Seigneur, être en prière, Seigneur, y apporter ton message dans ces jours difficiles. Nous prions la protection sur nous, sur notre famille. Nous prions, Seigneur, que tu puisses nous aider dans notre travail, dans les études. Sois avec nous, Seigneur. Renouvelle notre foi. Et fais de nous, Seigneur, de tes héros. Seigneur, fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes qui n'ont pas peur, qui ont une foi ferme en toi. Tout ça, je te prie, Seigneur Jésus, en ton nom, et je te remercie. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse.